bien-aimés, que la paix de Dieu soit avec nous pendant que nous écoutons sa parole. Je vais profiter de l'occasion pour souhaiter une bonne fête à toutes les mamans. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons en ce matin. Nous te louons et nous t'élevons. Parce que Seigneur, c'est toi notre Dieu. Parce que Seigneur, c'est toi qui mérites tous nos louanges et toute notre adoration. Nous voulons, Seigneur, te remercier en ce matin parce que, Seigneur, tu as permis que nous soyons dans ta maison. Seigneur, c'est toi qui nous as donné le vouloir pour être là en ce matin. Parce que, Seigneur, tu as quelque chose pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu nous as permis de faire monter vers toi nos louanges. Et, Seigneur, nous espérons vraiment que, Seigneur, cette louange qui est montée vers toi t'a plu. Nous voulons, Seigneur, écouter ta parole. Et Seigneur, tu as fait de moi ton serviteur en ce jour. Je ne mérite rien, Seigneur. Mais Seigneur, c'est par ta grâce. Et c'est toi qui m'installes aujourd'hui pour parler à ton peuple. Ce que je veux, Seigneur, c'est que tu me remplisses de ton esprit. Afin, Seigneur, que tout ce qui va être dit, qui va sortir de ma bouche, ne puisse pas l'être de moi, mais de toi, Seigneur. Ce que nous voulons aussi, Seigneur, c'est que tu puisses remplir cette salle de ta présence, de ton esprit. Seigneur, que tu puisses chasser tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur, que tu puisses nous donner la joie d'entendre ta parole. Mais Seigneur, que nous soyons aussi concentrés sur ta parole et sur ta parole seule en ce matin. Bénis-nous tous ensemble, Seigneur. Et que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Et c'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Alors, Seigneur m'a mis à cœur de partager un message avec vous ce matin. Et ce message, c'est une question qui nous est posée à tous. Sans exception. Mais c'est une question à laquelle nous répondrons à la fin du message. Donc, le titre du message, vous l'aurez à la fin. Parce que c'est une question. Souvent, nous entendons cette phrase, et peut-être parmi nous, vous le dites aussi. Je n'ai pas le choix. Souvent on dit ça, je n'ai pas le choix. Mais est-ce que c'est vrai pour autant qu'on n'a pas le choix? Je vais vous donner un exemple tout simple. En hiver, par exemple, il fait froid. Pour les messieurs, pour les mamans, mais je prends l'exemple de monsieur, madame reste au lit, elle ne travaille pas. Et il fait froid. Et on n'a pas envie d'y aller parce qu'on veut rester à côté de maman. On dit, je serais bien resté dans mon lit ce matin. Mais je n'ai pas le choix. Il faut bien que j'y aille. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai. Parce qu'on a le choix d'y aller ou de ne pas y aller. Par contre, si on ne va pas, il faudra peut-être rendre compte au patron pourquoi nous ne sommes pas venus travailler. Et parfois, ça arrive que on mente. Et est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'on mente? Rester à la maison et dire au patron, ben écoute, j'étais malade, je ne pouvais pas venir. J'avais un collègue de travail, ça remonte à longtemps. Ce jeune homme, il a enterré sa grand-mère au moins 4 fois. Parce que chaque fois, il ne voulait pas venir. Il appelait, il disait, j'ai été à l'enterrement de ma grand-mère. Mais chaque fois, il tombait sur une conseillère qui était là, il tombait sur quelqu'un de différent. Et la dernière fois qu'il a appelé, il est tombé sur le directeur même. Et le directeur lui a dit, si tu ne viens pas tout de suite, là, tu vas fêter Noël à la NPE. Nous avons toujours, toujours, toujours le choix. Seulement, il faut faire le bon choix. Il y a un bon et un mauvais choix à faire. Nous allons lire l'histoire de deux rois. Alors, ces deux rois, c'est Akaz ou Achaz et Ézéchias. 2 Chroniques 28 1 à 41. C'est pas affiché, Emile. Alors, 2 Chroniques 28, 1 à 4, pardon. Alors, la parole de Dieu nous dit, Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait David son père. Il marcha dans les voies des rois d'Israël. Et même, il fit des images en fonte pour les Baals. Il brûla des parfums dans la vallée des fils de Hinnom. Et il fit passer ses fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassé devant les enfants d'Israël. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. C'est ce que faisait Akaz. Deuxième lecture, 2 Rois 18, 1 à 7. La troisième année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne le fut plus assujetti. Voilà l'histoire de deux rois qui ont fait un choix tout à fait différent. Akaz, lui, il avait un chemin tout tracé. Il avait un père qui s'appelait Jotham. Et son père faisait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. La parole de Dieu nous dit, et Jotham est devenu puissant parce qu'il avait affermi ses voies devant l'Éternel, son Dieu. Mais malheureusement, Akaz, il n'a pas suivi l'exemple de son père. Il a fait au contraire, tout le contraire. Il a fait un autre choix que son père. La parole de Dieu nous dit qu'il offrait des sacrifices aux idoles. Il faisait même passer ses fils par le feu. Par contre, Ézéchias, son fils, lui, il avait ce mauvais exemple devant lui. Mais il a décidé de faire un autre choix que son père. Il a décidé de suivre le Seigneur. Il s'est battu contre toute forme d'idolâtrie. Il a fait disparaître les hauts lieux, ce que n'avait fait ni son père, ni son grand-père. Il a fait disparaître le serpent d'airain de Moïse, parce que le peuple faisait des sacrifices devant cette statue. Ça a été détourné. Ézéchias a décidé de faire un autre choix que son père. Son choix, c'était mettre sa confiance en l'Éternel, son Dieu. Et quand on met sa confiance en Dieu, l'Éternel est avec toi. L'Éternel était avec Ézéchias et Ézéchias a réussi dans toutes ses entreprises. Ce choix que Ézéchias a fait, nous pouvons le faire aussi. Ce choix, Dieu nous le propose aussi. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Et que Dieu veut que nous puissions réussir dans toutes nos entreprises. Dieu veut que tous les hommes, sans exception, soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, nous dit Timothée, 1 Timothée 2. Deutéronome 30, 15 nous dit: vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, mais je mets aussi la mort et le mal. Ça, c'est deux choix. Deutéronome 30, 19 nous dit aussi, et c'est Dieu qui parle encore, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Et Dieu nous dit, j'ai mis devant toi. Il dit ça à nous tous présents ici ce matin. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et Dieu qui est amour, Dieu qui nous aime, Dieu qui veut que nous soyons sauvés, Dieu nous demande de choisir la vie, non seulement pour nous, mais pour notre postérité. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Dieu veut que tu vives, mais seulement Dieu te laisse le choix de la vie ou de la mort. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui est juste. Dieu nous laisse le libre choix. C'est pas un Dieu, c'est pas notre Dieu n'est pas un dictateur. Il ne met pas un couteau sur la gorge et nous dit suis-moi. Il te dit je mets devant toi la vie et la mort. Mais il te conseille de choisir la vie parce qu'il veut que tu sois sauvé. Romains 14, 12 nous dit ainsi, chacun de nous, rendra compte à Dieu pour lui-même. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. J'ai une connaissance de la famille qui ne connaissait pas Dieu, ou alors qui connaissait Dieu à sa façon. Sa fille a rencontré le Seigneur. Sa fille a accepté le Seigneur. Et sa fille lui a proposé l'évangile. Elle allait au culte. Elle allait à presque toutes les manifestations évangéliques. Seulement son mari était hostile. Et elle, elle voulait que son mari soit sauvé aussi. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a abandonné. Tout simplement parce qu'elle a dit, mon mari n'acceptera jamais Jésus. Elle n'a pas compris que le salut était personnel. Et pourtant, elle a suivi. Elle était dans la bonne voie, mais elle n'a pas compris que le salut était personnel. Elle a abandonné. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. 2 Corinthiens 5, 9 à 10 nous dit c'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Et la parole de Dieu dit bien étant dans son corps, ça veut dire pendant son vivant. Dans certaines communautés, il y a des traditions qui veulent que, après le décès de quelqu'un, le lendemain du décès, on fasse ce qu'on appelle les 9 jours de prière pour sauver la personne, pour que Dieu puisse prendre l'âme de cette personne et le remettre au paradis. Même si la personne avait fait tout le mal qu'il fallait, ils font 9 jours de prière et comme ça Dieu va sauver. La parole nous dit que c'est en étant vivant qu'on doit faire ce choix. Si tu n'as pas fait ce choix pendant ton vivant, c'est terminé pour toi. Ecclésias 12:1 nous dit. Alors, Ecclésias 12:1, parfois, ça se trouve dans Ecclésias 11, à partir du verset 9. Donc, si vous ne le trouvez pas, 12:1, cherchez un petit peu plus loin, plus haut. C'est dans Ecclésias 11, à partir du verset 9, je crois. Ecclésias 12:1 nous dit « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. » L'Éternel met quelque chose derrière. Il dit « Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Tu peux faire le choix de marcher selon le cœur, ton cœur, de faire tout ce que tu veux, mais sache qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. Le Seigneur Dieu nous aime et il nous laisse le choix de faire ce que nous voulons. Mais Dieu nous prévient. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous prévient, justement. Il nous prévient de ce qui nous attend si nous ne faisons pas le bon choix. Le bon choix, est-ce que le bon choix? C'est la vie éternelle que Dieu nous propose par son Fils Jésus. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et nous connaissons tous ce verset. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça le bon choix. Croire en Jésus, c'est l'assurance d'avoir la vie éternelle. Jean 3, 36 nous dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui ne croit pas en Jésus, la colère de Dieu demeure sur lui. Mais il ne suffit pas de dire « je crois en Jésus ». Il faut le vivre pleinement. Il faut mettre sa confiance en lui. Il faut dépendre de Jésus, dépendre de lui en tout et pour tout. Et il faut faire sa volonté. Jacques 2, 19 nous dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Tu fais bien de croire qu'il y a un seul Dieu. Mais il dit que les démons aussi croient en Dieu. Et ils tremblent. Est-ce que tu peux dire comme les démons que tu crois en Dieu? Parce que les démons croient en Dieu parce qu'ils savent que Dieu existe. Mais ils ne suivent pas Dieu pour autant. Hein? Et les démons ne seront pas sauvés pour autant. Donc il ne suffit pas de dire « je crois en Dieu ». Il faut le vivre. Jésus nous invite à rentrer par la porte étroite. Car il dit, large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il dit encore, il y en a beaucoup qui passent par là, qui rentrent par cette porte. Mais il rajoute, étroite est la porte, resserrée est le chemin qui mène à la vie. Et là, on ne trouve pas beaucoup de personnes qui passent par là, qui prennent ce chemin. Mais si tu fais le choix de prendre cette porte étroite, cette porte qui mène à la vie, eh bien, tu dois marcher vers la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu, selon Hébreux 12, 14. Étant enfant de Dieu, tu es devenu une nouvelle créature. Et la parole de Dieu nous dit encore, les choses anciennes sont passées. Et voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. À partir du moment que tu as fait le choix de suivre Jésus, tu n'as plus rien en commun avec le diable. Si donc, tu es une nouvelle créature, si tu as accepté Jésus et que tu crois que tu es une nouvelle créature, la parole de Dieu nous dit qu'il faut que tu fasses mourir les membres qui sont sur la terre, tout ce qui est terrestre. Et la parole de Dieu nous donne quelques exemples. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Et la parole nous dit encore, parce que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et nous étions parmi ses fils avant. Et Dieu nous dit de renoncer à tout ça. Renoncer à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient peut-être sortir de notre bouche. Colossiens 3, versets 5 à 8. Et là, ça, c'est si tu fais le bon choix, le choix de la porte étroite. Tu dois renoncer à tout ça. Mais il arrive que on ne fait pas le bon choix. Si tu fais le choix de prendre l'autre porte, la porte large et le chemin spacieux, tu peux rentrer tranquillement. Et bien là, tu as fait non le choix de la vie éternelle, mais tu as fait le choix de la mort. Parce que rappelez-vous, Dieu a dit, je mets deux chemins devant toi, la vie et la mort. Mort, déjà, mort, tu l'es déjà. Parce que la parole de Dieu nous dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est la mort spirituelle, séparation avec Dieu. Mais là, dans cet état, on a encore la possibilité d'avoir la vie. On a la possibilité encore de faire un autre choix, le choix de la vie. Parce qu'il y a pire encore que cette mort spirituelle. Et c'est la mort éternelle. C'est la séparation définitive avec Dieu. Et comme la parole de Dieu le dit, c'est la géhenne. Nous voulons juste rappeler qu'il y a trois morts. Lorsque nous pensons qu'il y a une mort, il y a trois. La première, c'est la séparation avec Dieu. Comme on l'a vu, tout son péché. La deuxième mort, c'est la mort physique, où tout le monde passera par là. C'est quand ton cœur cesse de battre, ton âme remonte vers le Seigneur et tu vas dans le tombeau. Et la troisième mort, c'est la mort éternelle. C'est quand tu meurs sans faire la paix avec Dieu, tu meurs définitivement. Et tu es jeté dans l'étang de feu, comme la parole de Dieu le dit. Il y a une histoire dans la Bible qui nous fait part d'un homme riche et d'un homme pauvre. Ça se trouve dans Luc 16, 19 à 26. Alors je lis. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de lin fin et chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de miettes qui tombaient sur la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de ses doigts dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Et Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi, tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers nous ou de chez vous vers nous ne puissent pas le faire. Il y a un grand abîme. Cet homme est mort, enterré, et ce n'est pas parce qu'il était riche en fait qu'il était en proie à de grandes souffrances. Parce que Dieu n'est pas contre la richesse. Nous voyons dans l'exemple, dans la Bible, l'exemple de Job, par exemple. Job était un homme riche. Dieu n'est pas contre la richesse. Mais cet homme était incrédule. Cet homme n'a pas fait la paix avec Dieu avant de mourir. Et cet homme vivait dans la débauche. C'est pour ça que Abraham lui dit qu'il y a un fossé entre lui et Abraham et Lazare, pardon. Le salaire du péché, nous savons tous que c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Cet homme riche a hérité de la mort et la mort éternelle dans des souffrances atroces, dans la flamme de la géhenne. Mais remarquons que Dieu nous dit qu'il y a un grand abîme entre ceux qui sont morts en Christ et ceux qui ne le sont pas, afin que ceux qui ne sont pas morts en Christ ne puissent pas tenter de passer de l'autre côté, parce que c'est terminé pour eux. C'est ce qui attend tous ceux qui ne reçoivent pas le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, dans son corps, comme le dit la parole de Dieu, pendant qu'il est vivant. Ésaïe 55, verset 6 nous dit: Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Ça veut dire qu'un jour Dieu va s'éloigner. Ça veut dire qu'un jour on cherchera Dieu et on ne le retrouvera pas. On ne le trouvera pas. nous comparaîtrons tous devant le trône de Christ, devant ce grand trône blanc. Apocalypse 20, verset 11 nous dit: puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. Là, c'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Remarquons qu'il y a des livres et un livre. Dans les livres sont notées toutes les œuvres des hommes qui sont morts sans Christ, sans Jésus. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Mais dans l'autre livre, l'unique, le livre, était noté le nom de tous ceux qui sont morts en Christ. Si tu as fait le choix, le bon, le choix de la vie, ton nom est inscrit dans le livre. Et si tu as fait le mauvais choix, ton nom est inscrit dans l'un des livres. Je vais terminer par le livre d'Apocalypse 22, 10 à 16. Et il me dit: ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Celui qui est injuste soit encore injuste. Celui qui est souillé, bien qu'il continue à se souiller. Mais celui qui est juste pratique encore la justice. Et celui qui est saint se sanctifie encore. Et Jésus dit: voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Et il ajoute: je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Mais Jésus ajoute: dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Dans l'église de Créteil, Dieu atteste ces choses. Et il termine, je suis le rejeton et la postérité de David et je suis l'étoile brillante du matin. On arrive à notre fameuse question, le titre du message, et vous l'avez affiché. Où iras-tu? Est-ce que l'Esprit lui-même rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu peux chanter cette chanson avec conviction? Vous savez, la chanson qui dit « J'ai l'assurance de mon salut ». Est-ce qu'on peut le chanter avec conviction? Si le Seigneur venait maintenant, ou même si tu meurs avant la venue du Seigneur, la question c'est « Où iras-tu ? » Soit tu iras faire de la GN comme ce riche, ou soit tu iras dans le sein d'Abraham. Où iras-tu? C'est la question qui nous est posée à tous aujourd'hui. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Amen.